rencontre autour d'un auteur. Une émission proposée par Nicole Villeroux en partenariat avec la bibliothèque diocésaine.
Donc aujourd'hui, écoutez, c'est un carambolage avec l'actualité. On va parler d'un auteur russe. Donc, c'est un choix que j'ai fait l'année dernière, donc ça n'a rien à voir avec l'actualité, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous parler d'Andreï Makine, qui est un contemporain. Il est né en 1957, donc il est toujours de ce monde. Il vit en France et il fait partie maintenant de l'acquis de la nationalité française et fait partie de l'Académie française. Alors, j'ai sous-titré mon propos « Vivre quotidiennement au bord du gouffre, virgule, oui, virgule, c'est ça la Russie ». Et encore une fois, c'était bien avant que l'actualité vienne se heurter à ce propos. Alors, il est né le 10 septembre 1955 à Krasnoïarsk, en Sibérie. Alors, c'est une ville de Sibérie orientale, qui est une étape, depuis que cette ligne existe, une étape importante sur la ligne du Transsibérien. Il est orphelin très tôt et il dit qu'il y avait environ 50 millions d'orphelins en URSS au moment où lui l'est devenu, à cause de la guerre et des répressions staliniennes. Il y avait donc 50 millions d'enfants dans des orphelinats. Dès 1961, il apprend le français grâce à une vieille dame française qui s'occupe de lui, dans sa ville natale. Et alors il décrit cette ville comme figée en bordure des steppes, dans un étonnement profond devant l'infini qui s'ouvrait à ses portes. Il fait des études à l'université de Kralinin, une thèse de doctorat de littérature française, le roman sur l'enfance dans la littérature française contemporaine, donc la littérature des années 70-80. Il fait cela à l'Université de Moscou. Il enseigne la philologie à l'Institut pédagogique de Novgorod pendant un moment, puis en 87, arrive en France clandestinement où il s'installe et obtient l'asile politique. Et il va soutenir une thèse en Sorbonne sur un très grand auteur russe, Ivan Bounine, « La poétique de la nostalgie ». Il va sortir en 1990 son premier roman, La fille d'un héros de l'Union soviétique, qui est un constat de l'échec du communisme. Alors il l'écrit en français. La Russie est sa patrie, elle le demeure. Pour un russe, sa terre prime sur toutes les autres valeurs. Et donc il dit souffrir pour la Russie et souffrir en elle. En 92, il fait paraître Confession d'un porte-drapeau déchu. Et il dit ne pouvoir publier ses deux premiers romans que sous un pseudonyme en les disant traduits du russe, parce qu'aucun éditeur ne veut le prendre autrement. Et donc, il dit qu'il a traduit ce texte, en fait qu'il a écrit, et donc il le signe sous un autre nom. En 94, il le publie au temps du fleuve Amour, et puis en 95, c'est le météore qui éclate dans le ciel littéraire français, c'est le Testament français qui va obtenir le prix Goncourt des lycéens et le prix Médicis, donc qui sera couronné par deux prix, et on parlera énormément de ce roman qui va révéler Makine au grand public. Alors, c'est une grand-mère, fille d'un médecin venu en Russie, une grand-mère française, qui est la fille d'un médecin venu en Russie, qui échoue au 19e, qui échoue en Sibérie au début du 20e et qui va initier le héros à la littérature française et à la vie française du début du siècle à travers de vieux journaux. Et donc, on va remarquer que chez Makine, c'est toujours par le truchement d'une femme française ou d'un russe ou d'une russe ayant aimé un français. Ces femmes échouées dans un coin de la Russie, au fil de l'histoire mouvementée de ce pays, dans des conditions plus ou moins élucidées, hein, le héros sait rarement pourquoi cette femme est arrivée là, dans ces conditions, que le héros donc découvre le français et la civilisation française. Et tout, énormément de livres, c'est un chant d'amour à cette langue et à cette civilisation qui fait rêver, qui a fait rêver tant les Russes. En 2000, il publie Requiem pour l'Est. Alors, c'est les souvenirs d'un médecin militaire engagé par le KGB qui va découvrir peu à peu la vie de son père et de son grand-père tués par le régime. Alors, ce médecin va exercer en Afrique, donc c'est toute la déstabilisation de l'Afrique dans les années 60-70 par les Russes. Donc il est là sous couvert d'être un médecin, en fait c'est un membre du KGB, hein, c'est un médecin recruté, donc il exerce la médecine mais il fait aussi autre chose. Et donc il quitte l'Afrique, rentre en Russie et donc va remonter petit à petit le fil de son histoire pour découvrir ses origines. Donc c'est Requiem pour l'Est, donc j'ai choisi deux lectures. Alors au début du roman, donc il quitte l'Afrique, il revient. Nous arrivâmes à Moscou après 2 ans et demi d'absence, et comme toujours pour y passer peu de temps. Ces années avaient coïncidé avec le début des bouleversements. La richesse toute récente n'avait pas encore perdu son côté opérette. Les nouveaux rôles n'étaient pas encore appris par cœur. Le nouveau langage restait hésitant. Les acteurs commettaient des impairs, comme ce mendiant qui cherchait à attraper les effluves chauds envoyés par la porte d'un grand magasin. Un vrai ancien combattant, sans doute, mais qui avait accroché à sa veste toutes sortes d'insignes de pacotille pour faire nombre. Leur rondelle dorée éclipsait l'argent terni de la médaille, pour bravoure, qu'on gagnait durement à la guerre. Ou ces deux femmes qui attendaient les clients en face d'un hôtel pour étrangers. Monumentales dans leur fourrure, elles paraissaient immobiles, inabordables, comme des statues d'impératrices. Leur mise en scène consistait à faire semblant d'être tout juste sortis de l'hôtel. Mais la neige à l'endroit de leur guet était depuis longtemps criblée de piqûres des talons aiguilles. Un jour, pensais-je, elles ont aussi droit à une vitrine chauffée et même à un petit arbre de Noël avec sa guirlande de lampions. C'est à quelques immeubles de cet hôtel, près de l'entrée d'un restaurant, que nous fûmes pris dans le flot aviné d'un banquet qui déferlait sur le trottoir. Une vingtaine d'hommes et de femmes riaient aux éclats en se félicitant de leur idée. Entre deux plats, allaient se faire photographier sur le fond des tours du Kremlin tout proche. « Allez, grouillez-vous !» criait le principal bout en train. « Demain, peut-être, ils vont remplacer les étoiles rouges par les aigles. Ce sera une photo historique. » Nous nous écartâmes vers la bordure du trottoir pour les laisser passer. Il était cocasse de voir des habits de magazines de mode sur ces corps trop forts ou trop carrés. Tout ce luxe stylé associé à leurs larges faces rougies et hilares. Les femmes se frottaient les épaules en exagérant les frissons de froid. Les hommes les attrapaient par la taille, les serraient, les palpaient. L'un d'eux souleva sa compagne et la robe retroussée découvrit des cuisses très pleines d'une impudeur saine et agressive. Le bout en train donna un coup de poing dans la porte d'une grosse Mercedes, d'où sauta un homme ensommeillé, son chauffeur ou son garde du corps, qui lui tendit un appareil photo. Il y avait dans leur joie de vivre quelque chose à la fois d'indubitablement légitime et d'obscène. Je ne parvenais pas à démêler des deux. J'attendais ta réaction, mais tu marchais sans rien dire, en levant de temps en temps le visage vers l'ondoiement de la neige. Les voilà les nouveaux maîtres du pays, lançais-je enfin, en me retournant sur leur foule qui rentrait au restaurant. Tu te taisais. Nous longions une allée en contrebas des murs de l'enceinte, des tours surmontées par les cristaux troubles des étoiles rouges. Devant ton silence, j'eus envie de te provoquer, de t'obliger à répondre, de t'arracher à ton calme. Les maîtres changent, mais les domestiques restent. Combien d'années avons-nous passé à renifler comme des chiens dans toutes ces petites guerres pourries, et tout ça pour la plus grande joie d'une douzaine de vieux gâteux barricadés derrière ce mur? Et à présent, tu es prête à refaire le même boulot pour ces bouffeurs de fric et leurs putes boudinées en haute couture? Je m'arrêtais tournée vers toi, attendant la réponse. Mais tu continuais à marcher, le regard légèrement baissé vers les traces qui nous avaient précédées, que la neige effaçait patiemment. Bientôt, une dizaine de pas nous séparaient, puis une vingtaine, de sorte que tu m'apparus toute seule au milieu de ces arbres aux branches enneigées, très lointaines et parfaitement libres vis-à-vis de la vie que je venais de railler. Une seconde avant, piqué par ton air absent, j'étais sur le point de tourner le dos et de partir. Maintenant qu'à chaque pas tu devenais de plus en plus étrangère, je te sentis en moi avec une violence qui me fit mal aux yeux. Tu t'en allais et je devinais la tiédeur de ta respiration dans l'air nocturne, la fraîcheur de tes doigts dans tes gants, les battements de ton cœur sous ton manteau. Tu te retournas, tu étais déjà si loin que je ne discernais plus si tu souriais ou me regardais avec tristesse. J'allais vers toi avec le sentiment de te retrouver après une longue séparation, au bout d'une marche infinie. Voilà. Donc là, on est après donc la chute du mur, hein, dans l'égarement de la liberté retrouvée et des fortunes conquises. Et donc, c'est un tableau vraiment net, hein, de la situation, sans concession. Alors, un peu plus tard, donc, il va revenir sur son enfance, essayer de comprendre ce qu'il a été, qu'ont été ses parents. Il remonte dans son passé. Et donc, il a été élevé par une femme qui lui a fait découvrir le français. La femme, tête baissée vers la lampe, lit à haute voix. L'adolescent fixe son visage, mais n'écoute pas. Il a le regard de celui qui connaît une vérité rude et laide, le regard qui comprend que l'autre est en train de camoufler cette vérité sous l'innocente routine d'un passe-temps habituel. Ses yeux se posent sur les doigts de la femme qui tourne la page, et il ne peut retenir une rapide grimace de rejet. L'adolescent sait que le confort touchant de cette pièce est enfoui dans la grande isba noire grouillante de vie, de cris, de disputes, de douleurs, d'ivresse. On entend les sanglots patients d'une voisine derrière le mur, les cognements du petit marteau du cordonnier dans l'appartement d'en face, l'appel d'une voix qui tente de rattraper le tambourinement des pas amplifiés par la cage d'escalier, et sous les fenêtres, dans le crépuscule d'hiver, le pesant passage des trains dont on peut entrevoir le chargement de longues grumes, des blocs de béton, des engins sous bâche. L'adolescent se dit que cette femme, qu'il y a haute voix, lui est totalement étrangère. C'est une étrangère, venue d'un pays qui est, pour les habitants de la bourgade, plus lointain que la lune. Une étrangère qui a depuis longtemps perdu son nom d'origine et qui répond au prénom de Sacha. L'unique signe qui la rattache à son improbable patrie est cette langue, sa langue maternelle, qu'elle apprend à l'adolescent durant ses samedis soirs lorsqu'il obtient l'autorisation de sortir de l'orphelinat et de venir dans cette grande isba noire. Il fixe son regard sur ce visage, sur ses lèvres qui émettent des sons étranges et que pourtant il comprend. Qui est-elle en fait ? Il se rappelle d'anciennes histoires qu'elle lui racontait autrefois et qui se sont effacées sous les nouveautés de son enfance. Elle serait l'amie de ses grands-parents, Nikolai et Anna. Elle aurait accueilli un jour chez elle le père de l'adolescent, Pavel. Elle est cette femme qui traversait un pont suspendu en s'agrippant au corps d'usé, portant un enfant dont elle serrait le vêtement entre ses dents. Ces ombres qui sont la seule famille de l'adolescent lui paraissent incertaines. Il tend l'oreille à la lecture de la femme. Un jeune chevalier aperçoit à travers le dais du feuillage le donjon d'un château. Le regard de l'adolescent s'aiguise, ses lèvres se crispent dans un rictus de défi. Il s'apprête à dire à cette femme la vérité qu'il connaît désormais, la vérité frustre et plate qu'elle essaie de dissimuler sous des dais, donjons et autres jolies vieilleries. Cette vérité a éclaté ce matin à l'orphelinat, quand un petit chef de bande entouré de ses sbires lui a lancé ses mots, moitié crachat. « Mais tout le monde le sait, ton père !» Les mitrailleurs l'ont abattu comme un chien. Toute la vérité du monde se concentrait dans ce crachat. C'était la matière même de la vie. Son agresseur ne pouvait certainement pas deviner comment était mort le père de l'adolescent. Mais il savait que dans leur orphelinat, il n'y avait que cela. Des enfants de parents déchus, souvent des héros déchus, morts en prison, exécutés pour ne pas ternir l'image du pays. Les enfants s'inventaient pour père des explorateurs du pôle Nord happés par des glaces, des pilotes de guerre disparus. Le mot « crachat » le prive à jamais de cette fiction acceptée d'un accord tacite. La femme a interrompu sa lecture. Elle a dû sentir son inattention. Elle se lève, va à l'armoire, retire un cintre. L'adolescent tout saute en se préparant, une voix dure qui va interroger, accuser, railler. surtout railler ses samedis soirs, son ancien paradis avec ses relectures au milieu des claquements des rails, des sanglots avinés au milieu d'un grand néant enneigé habité à contre-cœur, qui est leur pays. Il se retourne vers la femme, mais ce qu'elle dit devance une seconde l'aigreur des mots dont il sentait déjà la brûlure dans sa gorge. « Regarde, j'ai cousu ça pour toi, » dit-elle en déployant une chemise en gros coton gris vert. « Une vraie vareuse de soldat, n'est-ce pas? Tu pourras la mettre lundi. » L'adolescent prend ce cadeau et reste muet. D'un geste machinal, il caresse le tissu, remarque les lignes de points très réguliers, bien que faits à la main. À la main, avec une douleur subite, il pense à cette main droite, à la main mutilée par un éclat de bombe, à ses doigts gourds qu'il a fallu forcer pour maîtriser le va-et-vient de l'aiguille. Il comprend que la vérité du monde n'est rien sans cette main barrée d'une longue cicatrice, que ce monde n'aurait pas de sens si l'on oubliait la vie de cette femme venue d'ailleurs et qui a partagé sans broncher le destin de ce grand néant blanc avec ses guerres, sa cruauté, sa beauté, sa douleur. Il incline de plus en plus la tête pour ne pas montrer ses larmes. La femme s'assoit, prête à reprendre la lecture. C'est juste avant la première phrase qu'il lâche dans un chuchotement entravé. « Pourquoi les mitrailleurs l'ont tué ?» La réponse de la femme ne viendra pas tout de suite, et d'un samedi à l'autre prendra plusieurs mois. Elle parlera d'une famille dans laquelle peu à peu l'adolescent reconnaîtra ceux qui, avant, n'existaient que dans le vague légende de son enfance. Le récit prendra fin un soir d'été, après le coucher du soleil, dans l'air encore chaud et fluide au-dessus de la steppe. Voilà. Donc ça, c'est l'enfant, donc par le truchement de cette femme, qui l'a sauvée. Alors effectivement, au début du roman, les soldats arrivent dans la maison, dans une petite maison en pleine campagne, et puis arrêtent les parents. Et donc, elle vient chercher l'enfant, et il est tout petit, c'est un bébé, hein, donc pour traverser un pont en bois sur une rivière, vous voyez, brinque-ballante, elle prend le tissu entre ses dents et elle le porte comme ça. Et donc lui, bien sûr, va être placé dans un orphelinat et il sera autorisé à venir passer ses vacances chez elle. Et voilà. Et donc petit à petit, il va découvrir, mais c'est le même homme du début du roman, sans du tout aucune illusion sur la nouveauté de son pays. Et puis cet enfant, le roman avançant, on est presque à la fin du roman, là, qui découvre la vérité. Voilà, donc Requiem pour l'Est, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le titre. Alors, 3 ans après, il fait paraître un roman qui s'appelle La Terre et le Ciel de Jacques Dorn. Alors là, on découvre quelque chose, moi j'ai découvert un épisode dont on parle peu et qui est extrêmement intéressant, dont l'action du roman se déroule 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un orphelin, toujours, hein, un orphelin, découvre le français par l'entremise d'une Française qui est venue avec la Croix-Rouge en URSS, qui a épousé un Russe qui est mort fusillé en 1935. Donc elle est là bien longtemps avant, hein, elle est venue au moment de la Révolution russe, avec la Croix-Rouge, elle est restée puisque s'est mariée avec un Russe. Le Russe est fusillé en 1935. Elle se retrouve toute seule à travailler sur des voies ferrées et installée dans un manoir en ruine avec un certain nombre d'autres personnes. C'est un habitat collectif. Et dans ce manoir qui a dû appartenir à quelqu'un autrefois riche, bien doté et surtout amoureux de littérature française, il reste la bibliothèque. Alors, dans un endroit qui est ouvert à tous les vents, donc la bibliothèque est dans un état quand même assez de décomposition avancée, mais il reste quand même assez de livres et de revues pour que le gamin découvre la littérature française, la vie en France. Alors, la vie en France dans les années fin 19e, début 20e. Mais enfin, voilà. Et il découvre peu à peu que cette femme a aimé, pendant la guerre, deuxième, un pilote français qui est venu dans une escadrille française. Bon, vous avez tous entendu parler de l'escadrille Normandie-Niémen, hein, qui était chargée d'aider les Russes. Mais Il y a eu une autre escadrille qui a fait une ligne Alaska-Sibérie, 5000 km, lorsque les Américains ont fourni aux Soviétiques 8000 avions pour la guerre, pour la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une ligne qui avait été créée de l'Alaska, donc aux États-Unis, en Sibérie, donc loin du territoire des combats, où les avions arrivaient en pièces détachées, ils étaient montés par les Russes et hop, allaient se battre. Et donc là, il y a eu un pont aérien qui ont conduit donc ces 8000 avions vers environ une vingtaine d'aéroports secrets à travers la Sibérie. Et donc, dans cette escadrille, il y avait des Français, et donc cette femme a épousé un des Français, le fameux Jacques Dorme. Voilà. Donc c'est encore un autre biais pour approcher le Français. Alors, même chose, c'est un orphelin qui vient voir donc la personne qui est son correspondant, on va dire. Voilà. Durant ces visites, j'avais certainement reçu une éducation française, mais une éducation sans système, sans préméditation. Un livre laissé ouvert sur le coin d'une table, un mot russe dont Alexandra me révélait le passé français. Le sentiment d'être enfin chez moi se mêlait imperceptiblement à cette langue étrangère que j'apprenais. L'alliage devenait si intense que bien des années plus tard, le français évoquerait toujours pour moi un lieu et un temps semblables à l'atmosphère d'une maison d'enfance que je n'avais jamais connue. Elle avait commencé à m'apprendre sa langue, car dans le dénuement de notre vie d'alors, c'était la dernière richesse qui lui restait et qu'elle pouvait partager. Une soirée de temps à autre me donnait l'illusion d'une vie en famille et cette langue. Il y avait probablement le premier déclic, un mot, un récit, l'éveil d'une curiosité, je ne m'en souviens plus. Je me rappelle cependant très bien le jour où j'avais pénétré dans une petite pièce coupée du reste de la maison par l'incendie du printemps 1942. Depuis 20 ans, ce réduit sous les toits demeurait inaccessible, condamné par les grosses planches que les habitants avaient clouées à la place du mur éventré. La porte de cette chambrette s'ouvrait sur le dehors, sur le vide, à l'endroit de l'aile effondrée. Pour l'atteindre, j'étais passé par la fenêtre du palier. L'acrobatie n'était pas sans risque, puisque je devais m'accrocher à l'éclat d'une poutre, poser mon pied sur la plinthe d'un plancher disparu et, me collant de tout mon corps au bois calciné, attraper la poignée. À l'intérieur, j'avais découvert les restes de la bibliothèque de Saïmolov. Des piles de livres abîmés par le feu, l'âge et les pluies. Des livres étrangers surtout, inutiles pour les habitants, et sauvés des poils grâce à l'isolement de cette pièce. J'en avais rapporté quelques-uns de mon expédition périlleuse. Alexandra m'avait grondé. J'avais à peine 7 ans. Puis m'avait montré ses livres à elle. Provenaient-ils aussi de la bibliothèque dévastée ou d'un passé plus lointain? Je ne sais pas. Seul cet instant me revient aujourd'hui. Je m'aplatis contre les rondins noirs, je tends la main vers la poignée et soudain, je vois mon reflet dans un miroir au cadre d'étain accroché au mur. Je comprends que le vide au bord duquel je glisse a été autrefois une pièce habitée. J'ai le temps de fixer mon visage, une seconde de ma vie, l'extrême singularité de cette seconde, le ciel où plane une neige très lente, presque immobile. Mon éducation française ressemblait à l'effort d'un paléontologue qui reconstitue un monde évanoui à partir d'un ossement. L'enfermement dans lequel vivait alors notre pays faisait de l'univers français un paysage aussi mystérieux que celui du Crétacé ou du Carbonifère. Chaque roman sur les rayonnages d'Alexandra devenait le vestige d'une civilisation disparue, voire extraterrestre. Un fossile, une goutte d'ambre, avec en guise d'insecte emprisonné, un personnage, une ville française, un quartier de Paris. Dans les années qui suivirent, Alexandra me fit lire des classiques, mais c'est grâce à la petite pièce condamnée que mon impression d'explorer fut la plus vive. J'y retrouvais beaucoup de livres français, certains rongés par l'humidité, devenus illisibles, quelques-uns imprimés dans l'orthographe ancienne, avec ce « wa » ou « ité » de l'imparfait, qui m'avait au début dérouté. Dans l'un de ces volumes abandonnés, je découvris une anecdote qui me marqua. J'ai longtemps été honteux de l'avouer, plus que certains romanciers de renom. Il s'agissait de l'actrice Madeleine Brohan, célèbre en son temps. mais qui vivait ces dernières années dans une grande gêne, logeant au quatrième étage d'un immeuble vétuste de la rue de Rivoli. L'un des rares amis qui lui restait fidèle se plaignit un jour en soufflant de la fatigante ascension. « Mais mon cher, répondit la comédienne, je n'ai plus que cet escalier pour faire encore palpiter les cœurs. » Les alexandrins les plus brillants, les romans les plus ingénieux, ne m'apprendraient jamais davantage sur la nature de la francité que cette parole d'une douce amertume dont il me semble encore percevoir l'endoiement vocal. Voilà. Alors donc, elle va peu à peu lui dévoiler son histoire à elle. Il lui restait peu de choses à me dire. Elle ne parla pas des combats dans Stalingrad, sachant qu'à l'école, on nous racontait chaque année avec témoignages de vétérans en l'appui. Ni de l'enfer vécu à l'arrière, dans des bourgades transformées en vastes hôpitaux de campagne. Après le départ de Jacques Dorn et pendant les 3 années qu'avaient duré ses vols au-dessus de la Sibérie, elle avait reçu 4 lettres, transmises de main en main grâce à des militaires en déplacement. L'unique moyen d'envoyer un courrier du désert polaire où était basée son escadrille et surtout de déjouer la vigilante chasse aux espions. Le travail des pilotes sur la ligne Alaska-Sibérie, l'ALSIB, était doublement secret. Pendant la guerre, il fallait le cacher aux Allemands. Après la guerre, aux Soviétiques eux-mêmes. La guerre froide venait de commencer et le peuple ne devait surtout pas savoir que ces impérialistes américains avaient fourni à leur allié russe plus de 8000 avions pour le front de l'Est. Tout ce qu'Alexandra apprendrait viendrait de ces 4 lettres, d'une seule photo et des conversations avec un camarade à qui Jacques Dorn avait demandé de la retrouver. Un engagement que les hommes de l'escadrille prenaient entre eux en pensant à leurs proches. Il y avait aussi ce voyage qu'elle tenterait au début des années 50, dans l'espoir de retrouver le lieu de sa mort. Elle en rapporterait peu de choses, le souvenir d'une région à peine accessible, quadrillée çà et là par les barbelés des camps, et en réponse à ses questions, un mutisme prudent, une ignorance réelle ou feinte. Elle sut pourtant me faire imaginer, presque revivre, l'époque de ce pont aérien caché au monde. Parmi les itinéraires parcourus ou rêvés de ma vie, l'ALSIB fut l'un des premiers à inscrire en moi son espace et son vertige. 5000 kilomètres, de l'Alaska jusqu'à Krasnoïarsk, au cœur de la Sibérie. 20 d'aéroports posés sur le permafrost de la toundra et leurs noms mystérieux comme ceux des étapes d'une quête, Fairbanks, Nom, Huelcal, Homolon, Seitchan. La violence des vents arctiques qui renversaient les hommes et les traînaient sur la glace où la main ne trouvait rien à quoi s'accrocher. L'air par -60, dans lequel la bouche mordait comme dans une volée de lames de rasoir. Des escadrilles qui se relayaient d'un aérodrome à l'autre, sans jour de repos, sans droit à la faiblesse, sans l'excuse des intempéries, des orages magnétiques, de la surcharge des avions. Les pistes d'atterrissage construites par les prisonniers des camps, les environs bosselés de leurs cadavres engivrés qu'on ne prenait pas la peine de compter. Le seul décompte portait sur le nombre d'avions conduits par chacun des pilotes, plus de 300 pour Jacques Dorn d'après la lettre de septembre 1944, et une addition plus discrète, le nombre d'aviateurs morts dans les crashs, plus d'une centaine, dont le sien le jour de l'an 1945. Alexandra avait probablement deviné au-delà de ce que les lettres et les conversations ne lui en laissaient savoir. Elle n'était pas venue réveillonner avec les collègues cheminots le 31 décembre 1944. Une prescience patiente, sournoise, l'étouffait. C'était comme une voix qui s'était tue là-bas dans les confins glacés de la Sibérie, une voix qui ne répondait plus. Quand quelques mois après, un ami de Jacques Dorn viendrait chez elle et lui apprendrait la vérité, elle n'oserait pas parler de pressentiment, de peur, qu'il y voit des superstitions de bonne femme. Elle m'en parlerait à moi avec un petit sourire triste et je rougirais, n'osant pas lui dire à quel point je la croyais. Je croyais à chacune de ses paroles et surtout à cette prémonition qui me prouvait la force avec laquelle il s'était aimé. Voilà. Et donc, il va aller, lui, voir où est tombé l'avion. Donc, il va aller en Sibérie. Et alors, évidemment... Personne ne veut aller dans ces parages parce que c'est extrêmement dangereux. Mais quand il dit au pilote qui doit le conduire Ils vont acheminer, je crois que c'est une base scientifique hein, qui est ravitaillée. Donc il va profiter de ça pour. Il va dire qu'il veut retrouver un avion qui est tombé sur cette ligne pendant la guerre. Et là, alors, à ce moment-là, le pilote va lui dire d'accord. Et il ne l'aurait jamais amené, conduit à peu près. Alors il va survoler la région où est tombé Jacques Dorn. Bon, bien sûr, il n'est pas question de se poser, il n'est pas question de. Mais il va faire ce pèlerinage. Et après, il ira retrouver en région parisienne, dans une banlieue d'ailleurs, vraiment dangereuse, le frère de Jacques Dorn dans un pavillon de banlieue pour lui raconter tout ça. C'est un très très beau livre. On parle moins de celui-là, hein, La Terre et le Ciel de Jacques Dorn, mais c'est vraiment une belle histoire. Alors, Une femme aimée en 2013, Makin publie très régulièrement, hein, très très régulièrement. Une femme aimée, lui vaut le prix Casanova. Alors là, on aborde un autre problème qui est le problème des Russes d'origine allemande, que les Russes appellent les Allemands, mais qui sont arrivés les trois quarts, soit, alors, surtout au moment de. Lors du règne de Catherine II. La grande Catherine était d'origine prusse, c'était une princesse prussienne. Donc quand elle a épousé le tsarévitch, elle a emmené avec elle évidemment un certain nombre de personnes, et puis d'autres ont suivi, des artisans. Hein, beaucoup d'artisans sont venus s'installer dans la Russie que Pierre le Grand avait voulu moderniser, ouvrir sur l'Occident, et que Catherine II va continuer ce travail en faisant venir des artisans, des ingénieurs, enfin tout un. Énormément d'Occidentaux et donc des Allemands. Et donc ces Allemands vont rester là, vont faire souche, évidemment. Et donc le héros du roman Une femme aimée s'appelle Oleg Erdmann. C'est un Russe de la région de la Volga d'origine allemande. Et on l'appellera ces gens-là, parce qu'ils se sont établis beaucoup le long de la Volga, les Allemands de la Volga. Il est né en 54 et il est scénariste. Il prépare un film sur Catherine II, justement. Le jour, il travaille à ce scénario et la nuit, pour vivre, il travaille dans un abattoir. Et donc, pendant la guerre, on a déporté les Allemands de la Volga au-delà de l'Oural. Hein, on les a déplacés. Alors, ce roman, c'est un aller-retour entre la vie du héros. Oleg Erdmann et la Grande Catherine. On fait des allers-retours entre le présent, l'écriture du scénario et le film en train de se tourner, c'est-à-dire la vie de la Grande Catherine. Et c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien rendu. Alors, la Grande Catherine, évidemment, alors on est dans la période d'ouverture de la perestroïka. Donc, ce qui intéresse les Russes, c'est les amants de la Grande Catherine. Hein. C'est ces coucheries à répétition, la façon dont elle se comportait. Ce n'est pas tellement ce que fut sa vie sur le plan tsar, hein, une tsarine absolument implacable aussi, mais amie des philosophes cependant. C'est elle qui a racheté la bibliothèque, je crois, de Diderot. Non, non, c'était ses coucheries. Mais lui va faire émerger, le scénariste, un élément qui lui paraît essentiel dans la vie de Catherine II, c'est qu'elle a eu beaucoup d'amants, mais qu'elle n'a jamais été aimée. Son mariage est un mariage arrangé. Et après, ils étaient là parce que c'était la tsarine et qu'elle était généreuse. Si elle était satisfaite, elle était généreuse. Et elle les couvrait d'or. Hein, d'or, de propriété, de serf, enfin bref, c'était si on avait couché avec la tsarine, la fortune était faite. Et donc lui prend pour sujet son dernier amant. Elle est déjà bien âgée et elle va s'enticher d'un très jeune homme, Lanskoï, qui lui l'a aimé. C'est le dernier et lui l'a aimé. Seulement, il va mourir assassiné très jeune. Donc, c'est un échec. Cette femme reste une éternelle solitaire. Et c'est la solitude de cette femme dont il parle, avec en même temps une femme, une actrice venue d'Allemagne de l'Est, pour incarner la grande Catherine. Donc c'est encore une autre forme de vie qu'elle a connue, elle, en Allemagne de l'Est. Donc il y a un échange là entre les deux, et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors, il décrit la nouvelle société russe comme éveiller les foules lancées dans une sauvage ruée vers rien. Voilà. Hein. On est passé de l'idéologie communiste à rien. C'est pour lui, c'est, alors que bien sûr, il n'est pas communiste puisqu'il a quitté le... Mais si vous voulez changer pour aller vers rien, voilà. La consommation, c'est rien. Hein. Se goberger, voilà, c'est rien. Alors, je vais vous lire un passage, donc, de « Une femme aimée », deux passages, même, oui, voilà. Donc, il décrit un peu cette nouvelle société. Son retour dans la ruche communautaire l'aide à évaluer la brutalité de la course où s'est lancée la Russie. Avant, l'appartement était habité par des gens, certes modestes, mais qui avaient tous un travail ou une retraite. Il nichait aussi des artistes venus conquérir Leningrad, des divorcés espérant trouver mieux rapidement. À présent s'entassent ici des laissés pour compte, les perdants du triage entre les forts et les faibles, seule façon d'exister dans ce nouveau pays. Leur pauvreté se voit au linge qui sèche, au plat cuisiné sur le fourneau. L'an 5 depuis la chute du mur de Berlin. Être classé parmi les vaincus est désagréable. Lui aussi a eu ses années fastes, non pas une compagnie d'aviation, mais de bons emplois et donc de bons salaires. En ses premières années de libéralisation, un simple revendeur de cigarettes dans un kiosque en contreplaqué devenait businessman. Olga a écrit des pièces radiophoniques, réalisé des courts-métrages, travaillé pour un théâtre, a même acheminé vers la province des voitures d'occasion. Et le samedi, il filmait les mariages. La bourgeoisie naissante avait besoin d'immortaliser l'éclat des célébrations. De ce cirque nuptial, il est passé au documentaire de commande qui retraçait l'ascension des oligarques. Toujours le même canevas, une jeunesse soviétique désargentée, l'entrée dans le monde cruel des affaires, le génie d'entreprise qui s'effeuillait, et enfin un luxueux bureau, marbre et dorure, où ce self-made man narrait son épopée. Certains de ces manias allaient être tués peu de temps après. « Je n'y suis pour rien », plaisantait Oleg. Le temps que vivait alors la Russie pulsait avec une frénésie pathologique. Les fortunes se créaient en quelques mois, se perdaient en quelques heures. Voir, en pleine rue, un homme étendu dans une mare de sang était aussi banal qu'autrefois, enjambé un ivrogne endormi sur le trottoir. Un jour, Oleg a filmé une limousine, symbole rutilant d'une carrière. Le lendemain, il n'en restait qu'un tas de ferraille dégageant l'odeur des explosifs. Les policiers ramassaient dans des sacs en plastique les restes du propriétaire. Il se savait capable de s'adapter à cette course d'endurance, changer d'emploi, se blinder le cœur, oublier ses rêves de cinéma en fabriquant des vidéos qu'il faisait vivre. Et il vivait bien. Il pouvait louer un beau logement tout en gardant sa chambre dans l'appartement communautaire. « Mon débarras », disait-il. Alors voilà un autre passage. Alors là, on est un peu plus loin, on est dans le tournage du film. Le soir, ils atteignaient la Baltique, longeant la côte orientale de la baie de Kiel. Dépassent la bouée, s'arrêtent à l'écart des réverbères. Dans la profondeur argentée de la mer, la neige continue de tomber en grands flocons lents. « Probablement, ils se tenaient là », murmure Oleg. Deux enfants qui ne savaient rien au-delà de cet instant. Les futurs tsars et tsarines. 20 ans plus tard, le garçonnet qui regardait la neige tomber sera cet homme battu à mort, étranglé, défiguré par les amants de celle qui fut la petite fille dont il serrait la main. Cette scène me poursuit. La beauté de cet instant et puis une déferlante d'absurdité. Complot, conquête, émeute, tuerie, bref, l'histoire qu'un grand H. Tout le monde comprend la folie de cette façon d'exister. Et pourtant, à chaque génération, cela recommence. Imaginez, sur l'autre rive de cette baie se tiennent en ce moment deux enfants grisés par ces tourbillons blancs. Dans 10 ans, ils seront enrôlés dans les jeux de ce monde, sa voracité, ses mensonges, sa laideur. Eva lui prend le bras, le secoue doucement. Et pourtant, vous avez déjà écrit 2 films sans avoir jamais parlé de la beauté que vivaient ces enfants. Vous racontiez ce qui arrivait après cet instant, les alcôves, les guerres, la rapacité des désirs, l'histoire. Comment voulez-vous que cela ne se reproduise pas si personne n'ose dire qu'une autre vie est possible ? Vient de nouveau la sensation d'une frontière dépassée, d'un temps qui se déploie autrement. Installé dans la voiture, il reste sans bouger, conscient que revenir à Berlin, reprendre la vie d'avant, est désormais impossible. Eva parle sur un ton d'excuse. « Ne croyez pas que je vous reproche un manque de courage. Je vous ai parlé un jour de cet ami italien, Aldo Ranieri, qui a écrit un scénario sur la vie de Catherine. » Nous avons commencé à tourner, mais Aldo était très affaibli par sa maladie. Le producteur nous a lâchés et de toute façon, nous n'arrivions pas à dire autre chose que la chronique bien connue du règne, coup d'État, conspiration, favori. Un jour, Aldo a eu l'idée de filmer ce qui échappait à cette farce, comme cet instant à Kiel, et aussi l'amour de Lanskoy. Nous avons tourné les premières scènes et c'est là où le producteur nous a coupé les vivres. Ces dernières années, j'avais très envie de revoir le film inachevé. La sœur d'Aldo en a gardé une copie dans sa maison près de Ravenne. Olga se rappelle une scène qu'il n'a jamais réussi à imposer dans un film. La tsarine et Lanskoy en train de tracer l'itinéraire d'un voyage secret. Vous savez, Eva, j'ai apporté les cartes que vous m'aviez données. Oui, les carnets de Lanskoy. Le nord de l'Italie y est, peut-être jusqu'à Ravenne. J'ai un visa valable 1 mois, nous avons le temps d'y aller. Eva rit doucement, fermant les yeux, se frottant le front. Il faudra qu'avant je traduise les œuvres complètes de Pushkin pour pouvoir payer l'essence et le reste. Écoutez, je ne veux pas me faire passer pour un oligarque russe, mais Catherine m'a rendu presque riche. Cet affreux feuilleton de Jourbine a drôlement rehaussé mon standing social. Je me suis même acheté un costume italien très cher que je n'ai jamais vraiment porté. Quand je le mets, mon appartenance sexuelle devient incertaine. C'est Jourbine qui le dit. Bref, j'ai amené le maximum de devises qu'on peut sortir de Russie, 10 000 $. Il m'en reste au moins 8. Ça doit suffire. Donc, il est parti avec Eva, donc l'actrice allemande qu'il a retrouvée après la chute du mur. Il est allé la retrouver à Berlin et ils sont partis donc vers l'endroit où les enfants ont été mariés, se sont vus pour la première fois. Et tous deux avaient imaginé déjà que elle, harassée par cette vie terrible qu'elle menait, avait projeté de s'enfuir avec son amant Lanskoy, de s'enfuir, de partir en Europe pour fuir toute cette... effectivement, ça aurait fait un joli film, mais évidemment, ça n'intéressait personne et puis ça ne s'est pas produit. Mais c'est la fin du roman, ça. Donc, ils vont se retrouver et c'est eux qui vont faire le voyage, qui vont aller sur les pas imaginaires de la grande Catherine et de son dernier amant. Alors, son dernier roman avant la Covid est paru en 2019, Au-delà des frontières. Alors là, effectivement, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un roman à clé. Et c'est vraiment un roman pour le temps présent, sauf que le temps présent, il a pris une autre tournure depuis 5 jours. Mais avant, c'était vraiment ça, avec certains discours qu'on entendait à la radio et à la télévision. Un jeune homme qui est en proie au démon du grand remplacement adresse au narrateur un roman impubliable par la violence de ses propos. Donc c'est un roman dans un roman. Donc l'auteur qui reçoit ce texte est vraiment un peu effrayé et cherche quand même à rencontrer le garçon, le garçon qui a écrit ça. Malheureusement, il va découvrir qu'il est mort. Il s'est suicidé. Et donc, il va rencontrer sa mère, qui bien sûr est dépressive à la suite du suicide de son fils. Et il va peu à peu, en explorant la vie de ce garçon, qui l'a mené, en voyant ce qui l'a mené à se supprimer, faire revenir sa mère à la vie, hein, la sortir de cette dépression consécutive. Et l'amener à un concept qui est de troisième naissance, c'est-à-dire là où l'on vit autrement sans mourir. On peut vivre autrement sans mourir. Et donc, il y a une phrase qui revient dans ce livre, on peut quitter cette vie sans avoir à mourir. Et donc, il va l'amener petit à petit à se dépouiller de ses vieux oripeaux, hein, pour essayer d'émerger et de voir autre chose. Alors là, le début du roman, il est dans une réunion germano-pratine. C'est un monde qu'il fréquente peu, mais là, il y est allé. Les conversations à l'apéritif dînatoire entrent en résonance avec le grand déplacement. Alors, le grand déplacement, c'est le titre du livre qu'il a reçu, du manuscrit. Comme souvent quand un livre que nous venons de lire nous impose la texture de son temps et le rythme de ses phrases. Une trentaine de personnes se pressent déjà dans le salon de ce vaste appartement rue de Bellechasse, mais d'autres continuent d'arriver. Un auteur de non-fiction romancée explique l'urgence de revenir au réel. Oh, si seulement il pouvait définir ce fameux réel. Son interlocutrice opine tout en essayant d'attraper un petit rouleau de saumon dans l'assiette posée sur ses genoux. Un homme jeune encore, mais affligé d'un gros ventre bizarrement décentré, s'immisce dans un trio de femmes. « Non, Laurence, le populisme est un phénomène mondial !» Sur le balcon, quelques fumeurs commentent la nécessité d'ouvrir des centres d'accueil pour les migrants. Un Algérien aux cheveux blancs et au regard triste, on le présente comme musulman modéré, les rejoint au moment où l'un d'eux s'exclame « Et aussi des centres de déradicalisation !» La coïncidence crée une gêne qu'ils essayent de dissiper en parlant du pape qui montre l'exemple en lavant les pieds aux immigrés. L'homme au ventre gauchiste est un journaliste de télé, m'aborde avec une bienveillance paterne, il a l'âge de mon fils. « Alors, vous nous préparez quelque chose ?» Le musulman modéré, une bouteille à la main, propose de remplir nos verres, ce qui m'épargne la réponse. Tout en buvant, le jeune ventru enlace une femme dont le visage, retendu par la chirurgie, est figé malgré l'ironie de sa réplique. « Oh, Loïc, toujours aussi séducteur !» Leur roucoulement les éloigne de nous. La question sur ce que vous nous préparez, on me la pose aussi, dit le modéré avec son sourire triste. Si on demandait cela à un conducteur de bus, ça paraîtrait loufoque, non ? Il a publié un livre sur la femme en Orient, ce qui lui vaut son titre de musulman modéré. Avant, j'étais juste l'arabe de service. Devenir un modéré doit être une promotion sociale, je suppose. Autour de nous, les voix s'échauffent. La chute d'Alep, les massacres que le régime va perpétrer, les rebelles et leur lutte pour la démocratie. Les noms de groupes d'opposition mal articulés par un convive font sourire l'Algérien. Il vient de dire un mot très ordurier en arabe. Je lui demande s'il est invité à commenter ces guerres où le pétrole se mêle au sang. Sa réponse me frappe. Invité pour approuver leurs mensonges. J'ai 62 ans, assez pour savoir que les bassesses qu'on a commises, on les payera de son vivant. Et le châtiment, c'est la laideur. Regardez comme ils sont tous laids. C'est vrai. Une vive sensation de disharmonie se dégage de ces bouches tordues par l'hypocrisie partagée, des yeux qui louchent comme ceux des enfants fautifs. Je crois avoir déjà observé ces grimaces, oui, chez Lyndon, qui racontait un cocktail où s'égosillaient les futurs candidats au grand déplacement. À travers la foule, le gros Loïc aile l'Algérien. « Kader, on parle de toi. Tu peux venir un moment ?» Un couple arrive et nous cache derrière les embrassades. « Je me sauve, chuchote l'Algérien. Couvrez ma fuite, s'il vous plaît. » L'expression un peu « commando militaire » m'amuse. Je me redresse et tête courbée, il file vers la sortie. Je voudrais en faire autant, mais une femme me demande d'un air de conspiratrice. « Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment ?» Elle m'écoute à peine, se mêlant à d'autres conversations, parlant d'une voix forte en contraste avec son corps chétif. Il proclame la nécessité absolue de faire barrage aux fake news. Et moi qui espérais y alpaguer un éditeur pour le livre de Linden, je me résigne, devenant un simple regard qui constate à quel point tout cela est faux. Ce pape embrassant les pieds des migrants, pourquoi pas les pieds des clochards qui pourrissent par milliers à l'ombre de ces églises. Et ce sobriquet de modéré dont on affuble un homme à qui l'on fait comprendre que son but suprême est l'intégration. Mais s'intégrer à quoi? À cette bulle de bobos bien protégée des dérangements extérieurs? Loïc raconte que pour protester contre le retour à l'ordre moral, un peintre transgenre ajoute au pigment la matière de ses menstrues et le sperme de son conjoint. Un artiste moscovite explique sa performance. Nu, gisant sous une plaque de béton en polystyrène, il dénonce les atteintes à la liberté des artistes en Russie. Une statistique me revient à l'esprit. Tous les deux jours, un paysan français se suicide écrasé par les dettes. Et 75 000 femmes sont violées chaque année dans ce pays. 8 par heure. Les conversations suivent leur cours, un trajet bien balisé. Tout le vocabulaire est là. Antiracisme, tolérance, migrants, vivre ensemble, multiculturalisme, art contemporain, pas d'amalgame. Cependant, on y sent une évidente fatigue verbale, un doute lancinant, la crainte d'une imminente démystification d'une culpabilité bientôt établie. C'est Linden qui en parle dans son manuscrit. Les bouches et les gazettes psalmodient des mantras humanistes, mais les cerveaux savent que de moins en moins de naïfs se laissent berner, la lassitude du langage. Je me sauve, louvoyant entre les invités. Une réplique de leur cœur me suit. Une réception offerte par un capitaliste mécène sur l'île de San Giorgio et la liste de ceux qui ont été admis. Les noms de ces chanceux sont exhalés avec un soupir pré-orgasmique. Ce petit monde qui se prétend si égalitaire est de fait très hiérarchisé. Les invités de la rue de Bellechasse éprouvent une jalousie âcre pour les élus de San Giorgio, comme d'autres rêveraient de se retrouver dans ce salon. Alors donc, il a retrouvé la mère du garçon, Gaïa, et donc il va la retrouver. Un matin à Paris, je rejoins Gaïa dans un café derrière le cimetière Montparnasse. Elle vient de rendre une traduction à son éditeur. Sur le trottoir, un couple embarque un attirail de vacances d'hiver. Un mari, grand, brun, et sa femme, toute menue, une minceur qu'il rapproche de leur fille, 12-13 ans, recroquevillée sur la banquette arrière, le nez bleui par un écran. Un garçon, plus jeune, réclame sur un ton géniard son sac. D'une patience inusable, le père le prie d'attendre un peu. L'épouse installe le petit dernier sur un siège en plastique. Elle ne cesse d'adresser au mari de rapides blâmes, la façon de disposer les bagages, le retard qu'il prend pour le départ. Il argumente, placide, lançant des sourires qui n'ont pas d'effet sur cette petite moue à la fois autoritaire et dépitée. Oui, une ado qui ne s'est jamais épanouie en femme. Un pantalon moule des jambes grêles, une veste courte, d'une coupe juvénile, serre un thorax sans relief. J'essaie de deviner la récompense qui pousse le mari à supporter ce qu'il va vivre. Leur voyage, les pics de l'épouse ado, la chamaillerie des enfants, la fatigue, les bouchons. Une semaine à cogner de leur godillot de ski, l'asphalte sous une neige piétinée. Une file d'attente pour le téléphérique, la lenteur des cabines bondées. Et le soir, les vagissements du petit et la mauvaise humeur de cette femme maigre qu'il s'efforcera de désirer. Sa situation est à la fois ordinaire et démente. Quelle motivation le contraint à continuer? L'amour pour ses enfants, la fierté de leur offrir ce qui est valorisé par la société? Les portes claquent, la voiture manœuvre avec douceur, en accord avec le caractère de l'homme, prudent à cause des enfants à bord, respectueux de ce cycliste qui slalome devant lui. Je tente d'expliquer ma perplexité à Gaïa. Chaque fois que je vois un Français pareil, je suis saisie d'admiration. Non, je parle sérieusement, ce type masculin, assez répandu d'ailleurs, me semble héroïque. Oui, un héros stoïcien, et qui a la courtoisie de ne pas avouer ses doutes. Connaissant mieux ses réalités, elle esquisse le portrait de l'homme. Des études qui lui ont pris sa jeunesse, médecine, business, droit, sa carrière, cette longue guerre d'usure, voyage d'affaires, chambre d'hôtel, se confondent dans un même cube à sommeil. Stress vertical face au supérieur et horizontal face aux collègues en embuscade. Le cauchemar greffé à son diaphragme. L'un des enfants est renversé par un motard ou poignardé par la racaille. Malgré sa vie de forçat, éviteront-ils le déclassement? Il a des techniques pour désamorcer le burn-out, déstocker la déprime, positiver. Devant un miroir, il flanche. La perte des cheveux, il s'y résigne. mais pas cet œil de bête traquée s'ingéniant à sourire. L'autosuggestion se déclenche, tout va bien, boulot, famille, vacances, et son épouse, et leur amour. Une main sur le volant, il pose l'autre sur le genou pointu de sa femme, presque avec conviction. Oui, c'est un héros. Pendant que nous imaginions cette vie, la voiture revient. L'homme descend, court vers son immeuble, pianote le code, et une minute après réapparaît une doudoune d'enfant sous le bras. Avant de se glisser au volant, il s'immobilise pour ne pas être fauché par la circulation. Et c'est alors qu'il nous voit. Nous partageons son bref regard qui dit « Oui, je sais, vous m'avez compris. » Il reprend sa place des mares. Ce résistant à l'absurde est le personnage clé de la modernité. À la mi-hauteur de l'échelle sociale, entre les éboueurs agrippés à leur benne et l'élite planant sur ses stratocumulus. Sans son endurance stoïque, le monde s'écroulerait. Les maris quitteraient leurs épouses à dos et partiraient vers les pays du Sud, vers des corps généreux et allés, loin de ces 4x4 remplis d'instruments de torture pour le royaume de la glisse. Or, ils assument, sourient, vieillissent. La fréquence des suicides dans la classe moyenne, relativement nantie, est assez logique. Des années passées à obtenir des tonnes de diplômes, une tension inhumaine au travail, la peur d'une obsolescence professionnelle programmée et en compensation, cette voiture pareille à un corbillard et cette femme ado à la voix glaçante, tu as encore oublié la doudoune de Léo. Il y a une autre raison qui fait dérailler un bon père de famille. À moins d'être d'un cynisme intégral, il sait que son existence, ce joli bagne prédisposant au suicide, est un immense privilège face aux milliards d'affamés. Au moment où ses enfants sont traînés, crochés aux fesses, vers les neiges immaculées des pistes, d'autres enfants à quelques heures d'avion sont démembrés par les bombes. Il sait que son séjour de ski est une façon de légitimer ce monde-là, cette synchronie de guerre et de fêtes, de familles et de populations obèses. Et plus désespérante encore, ces milliards de pauvres, une fois repêchés de la misère, se transforment en prédateurs, pressés de rejoindre la civilisation, celle qui fabrique un homme capable de consacrer sa vie à la commercialisation des dérivés financiers et la titrisation des actifs, capable même de faire l'amour à une femme qu'il ne désire plus. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment un roman coup de poing. Et encore, je ne vous ai pas lu le pire, parce que ça pourrait tomber sous le coup de la loi. voilà, hein. Makin, c'est quand même quelqu'un dont je vous recommande la lecture. Alors, il a été élu à l'Académie française. Évidemment, au fil du temps, il a été naturalisé français. Et il a été élu à l'Académie française. Et donc, c'est une lecture très, très intéressante. Moi, ça m'a passionnée. Par son amour de la France. C'est vraiment, et de la littérature, de la civilisation, cette langue qu'il a apprise donc dans les conditions que je vous ai dit. Parce que comme chez beaucoup de romanciers, il y a une part autobiographique dans son œuvre. Et c'est vraiment un orphelin de Krasnoïarsk. Et il a vraiment rencontré de vieilles femmes qui lui ont appris le français. Et donc, et un testament français, c'est ça. C'est la révélation de ça, et ça a vraiment été quelque chose d'important dans le paysage littéraire de l'époque. Voilà, donc je vous encourage à lire Makin, parce que c'est vraiment un classique. C'est vraiment devenu un classique au sens où on l'entend. Voilà, voilà. Ben, merci d'être venus nombreux.
C'était Rencontre autour d'un auteur par Nicole Villeroux en partenariat avec la bibliothèque diocésaine.